plus loin. Après les manifestations de ce week-end, le secteur culturel saisit en effet la justice contre les mesures sanitaires prises lors du dernier comité de concertation. Annemies Verlinden est citée à comparaître et puis un recours en suspension a été déposé au Conseil d'État par la Ligue des droits humains, comme l'explique, vous allez l'entendre, sa présidente Olivia Venet.
On considère qu'il y a une pression, disons, injustifiée sur le secteur de la culture par rapport à d'autres secteurs. C'est un secteur qui a déjà énormément souffert pendant la crise sanitaire. Par ailleurs, il y a aussi la dimension de proportionnalité de la mesure. Ça veut dire qu'au regard à la fois des rapports des experts, mais aussi des déclarations qui ont été faites après l'adoption de cette décision, il nous paraît que cette décision n'est pas justifiable. On estime qu'il y a un défaut de proportionnalité.
Bonjour Françoise Tulkens.
Bonjour.
Vous êtes ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous comprenez justement cette action, elle est fondée selon vous, cette action de la Ligue des droits humains ?
Je ne dis pas qu'elle est fondée, ça je n'en sais rien, et ça reviendra au Conseil d'État de le dire, mais je trouve qu'ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire parce qu'on vit dans une situation quand même très paradoxale. J'ai rarement vu une rupture de confiance aussi forte et aussi forte et aussi sensible que ce qui s'est passé après à ce qui concerne la culture. Donc je trouve que la Ligue des droits humains a raison d'introduire une action en justice. C'est ça un peu l'État le droit, c'est de veiller à ce que des juges indépendants, des juges qui sont tout à fait impartiaux, puissent effectivement voir si cette limitation, et maintenant si c'est plus qu'une limitation, hein, si cette restriction est nécessaire dans une société démocratique. Excusez-moi de répéter un peu ce que dit tout simplement la Convention des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, et si elle est proportionnée, c'est-à-dire efficace au but poursuivi. C'est toujours ça qu'il faut appliquer. J'ai un peu l'impression de me répéter parce qu'on le dit depuis des mois et des mois et des mois. Bien sûr qu'il y a des restrictions possibles dans les droits et libertés, mais il faut qu'elles soient nécessaires dans une société démocratique, celle où nous vivons, et j'espère qu'on vivra encore longtemps, et proportionnées. Proportionnées, c'est-à-dire elles vont répondre au but poursuivi. Voilà.
Oui, justement, est-ce que ça peut être recevable ? Parce que comme argument, ils disent que c'est disproportionné par rapport aux objectifs de santé publique.
Mais c'est ça, évidemment, toute la question. C'est exactement toute la question. Alors, c'est recevable ou non ? Ça, c'est encore une autre question. Ça, le Conseil d'État va le dire, bien entendu. C'est ça.
Et il y a des intérêts, alors, qui valent plus que d'autres ?
Non. Non, il n'y a pas des intérêts qui valent plus que d'autres. C'est vrai, une très bonne question ce que vous dites là, non, en matière de, parce que le droit à la santé, c'est aussi un droit, comme le droit culturel, c'est dans notre constitution, et n'oublions pas, article 23, tout le monde a le droit de vivre dans la dignité humaine, et on voit la santé et un épanouissement culturel. Eh bien, il faut faire un équilibre entre ces droits. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces droits, il faut faire un équilibre. Et c'est ça, évidemment, que pour l'instant, dans cette mesure, on ne le voit pas. Le citoyen, moi je me place comme le citoyen, hein, si le citoyen a besoin de savoir pourquoi maintenant, en ce qui concerne la culture, qui a quand même fait des efforts importants, eh bien cette mesure est justifiée par rapport à d'autres choses. Donc voilà, il faut soumettre ça à un débat démocratique.
Il faut donc comprendre les mesures pour adhérer ?
C'est essentiel, mais vous comme moi, ce n'est pas la force qui nous fait agir, c'est la persuasion. Quand on est convaincu, on le fait. Donc ça, c'est fondamental en démocratie. C'est vraiment fondamental. Alors, donc je comprends très bien que maintenant la Ligue des droits humains, eh bien, tente de ramener, j'ai envie de dire, le gouvernement, c'est-à-dire l'État de droit, c'est-à-dire la justice, à ses promesses. Et ses promesses, c'est d'assurer un équilibre entre les valeurs qui se doivent au respect mutuel.
Voilà, comprendre les mesures pour y adhérer. Or, justement, on l'entend maintenant avec la fermeture du secteur culturel. Il plane comme une atmosphère de désobéissance civile sur notre pays. Qu'est-ce que cela veut dire, Françoise Tulkens ?
Ça, c'est un fameux thème, la désobéissance. Je préfère dire la désobéissance civique, parce qu'on emploie souvent civil, mais c'est plutôt civique. Et maintenant, j'entends qu'on dit la désobéissance culturelle. Écoutez, c'est une question qui existe aux États-Unis depuis des années et des années. Et puis, il ne faut pas remonter dans l'histoire. Antigone, Gandhi, tout ça, ce sont des exemples. Mais la désobéissance civile, c'est lorsque tout a été tenté. C'est pour ça que je trouve important que la Ligue des droits humains fasse un recours en justice, pour que des tribunaux puissent se pencher là-dessus. Lorsqu'on a tout essayé, lorsque tout a été tenté, eh bien, c'est au fond... Au fond, vous allez dire, c'est réagir aux excès du pouvoir fut-il démocratique. Et c'est exactement là où on se trouve. Et la désobéissance civile, lorsqu'on examine vraiment la foi philosophiquement et juridiquement, eh bien, d'une certaine manière, c'est stimuler le débat démocratique. Une norme va être transgressée pour en réaffirmer les fondements. C'est ça le cœur de la désobéissance civique. Elle est pacifique. Elle doit être pacifique. Mm-hmm. Ça, c'est absolument certain. C'est vraiment, je dirais, la voie ultime du recours.
C'est la seule alternative, la désobéissance civique ?
À un moment donné, oui, voilà. À un moment donné, oui, c'est la seule alternative. Et ce n'est pas du tout contre la démocratie, parce qu'on le présente un peu comme ça. Non, c'est Hannah Arendt qui disait, elle a dit des choses tellement belles sur la justice qu'il faut quand même souvent s'y repencher. Elle dit, au fond, juridiquement, oui, on peut l'expliquer, mais il faut, le sens de la désobéissance civique, c'est de rappeler l'esprit des lois. Et l'esprit des lois, eh bien, c'est à la fois nos lois qui sont là maintenant, nos lois en Belgique, et puis aussi les droits humains, ceux de la Convention des droits de l'homme auxquels on a adhéré. Et maintenant, ce qui est demandé dans la désobéissance civique, c'est d'être fidèle à l'esprit de la loi. Et c'est vraiment ça. Je reconnais que c'est une situation rarissime, rarissime, et je suis frappée de voir que maintenant...
On vit une période rarissime, selon vous, Françoise Tulfes?
Moi, je trouve, à cet égard-là, oui, je n'ai jamais vu des actes de désobéissance culturelle ou civique telle qu'elle. Mais il ne faut pas prendre ça pour de l'anarchie. Il ne faut pas prendre pour de l'anarchie. C'est vraiment rappeler le droit et rappeler la loi à ce à quoi elle s'est engagée, c'est-à-dire établir la pacification entre les personnes.
Oui, mais parfois, il y a peut-être des situations qui expliquent que certaines lois ne peuvent plus justement être applicables.
Voilà, ça c'est vraiment toute la question. Mais est-ce que... Évidemment, il faut rappeler le point de départ, c'est qu'on vit en démocratie, et donc c'est le principe majoritaire. Et là-dessus, j'ai pas aucune hésitation. Donc je suis pas là du tout à dire la désobéissance. Non, le principe majoritaire, le principe de la démocratie est absolument essentiel. Il faut obéir aux lois, même si elles sont injustes. Mais jusqu'à quel niveau d'injustice? Jusqu'à quel niveau?
C'est très subjectif, l'injustice.
Ah, bien sûr, c'est subjectif. C'est subjectif. Et c'est pour ça que ça doit passer par la médiation de la compréhension de la mesure. Pour précisément sortir ce débat de son aspect subjectif.
Alors, on parle aussi, et vous l'avez évoqué, de perte de confiance. Je vous propose d'écouter ceci.
Je ne pense pas qu'ils se rendent compte, c'est ça le problème. Ils ne se rendent pas compte que ce marchandage politique qui a lieu lors des co-échos, il est occupé à avoir des conséquences délétères sur la confiance et... au final, sur la cohésion sociale. Parce qu'il ne faudra pas s'étonner, excusez-moi, dans une semaine, si aux côtés de l'extrême droite, on retrouve les acteurs du culturel, on retrouve du personnel soignant, on retrouve tous les secteurs de la population qui se sentent maltraités par la manière dont la crise est gérée.
Voilà, toute l'émotion de Marius Gilpert dans Matin Première au lendemain du comité de concertation. Une perte de confiance envers les autorités, c'est une situation qui n'est pas confortable, on veut, selon Marius Gilbert, pour la cohésion sociale, pour vivre en société.
Vous, les mots qu'il a employés, là, pour moi, sont des mots qui, dans une démocratie, sont essentiels par rapport au gouvernement. La confiance dans les autorités, c'est quand même le cœur du système. Et pas une confiance aveugle, bien entendu. Donc la confiance, c'est un thème, je ne le ferai pas, mais un jour, il faudrait retravailler cette question à fond. La confiance, c'est pas simplement elle l'a acceptée de manière sans réfléchir. Non, la confiance, c'est qu'on croit vraiment qu'ils vont agir. C'est un peu banal ce que je vais dire, mais pour le bien de nous tous. C'est ça que l'on souhaite. Alors, quand il dit qu'il y a une rupture de confiance, et lui, j'imagine qu'avec le comité d'experts, il l'a vu, s'il y a une perte de confiance, pour moi, c'est une gravité extrême, mais vraiment extrême. Si on n'a plus confiance dans nos institutions, eh bien, c'est la voie ouverte à l'anarchie. Je trouve que là, le gouvernement, qui fait ce qu'il peut dans une situation difficile, tout ça, on l'a dit, le gouvernement là, doit faire extrêmement attention, parce qu'on est sur une corde raide, et ça peut basculer d'un moment à l'autre. Et alors là, il ne faudra pas dire qu'on ne le savait pas. Et alors, quand il parle de la cohésion sociale, moi, je suis vraiment impressionnée, là, ce qu'il a dit, confiance et cohésion sociale, mais c'est ce que... nous, les juristes et tous ceux qui travaillent les droits humains, c'est ce que nous cherchons absolument. Alors si maintenant, par cette mesure qui visiblement n'est pas comprise, je ne dis pas qu'elle n'est pas compréhensible, elle n'est pas comprise. Alors si ce n'est pas compris par nous tous, c'est une situation... Je n'aime pas d'employer des termes dramatiques, mais je trouve que c'est grave. Voilà.
Et on est à un tournant, Françoise Tulfes?
Oui, on est à un tournant. Vous savez, la démocratie, elle est fragile, hein. Nos institutions sont fragiles, il faut en être bien conscient. Nos institutions sont fragiles, on ne peut pas jouer avec nos institutions. Elles sont fragiles, il faut faire extrêmement attention, on peut basculer. Et je dirais c'est un peu ça que les droits humains, c'est ça le travail que tous ceux qui tentent de faire valoir les droits humains font. C'est veiller à ce que ces droits de résistance et de vigilance puissent être pris en compte. Non, je reconnais que c'est une situation... Moi, je n'ai pas connu ça auparavant, des situations de désobéissance civile. Parce que lorsque j'avais un peu travaillé cette question-là, je ne pensais pas du tout qu'un jour j'allais me trouver ici devant vous à parler de ça en Belgique. Ça, vraiment, je ne pensais pas.
Merci, Françoise Tulkens, d'avoir été notre invitée en direct ce matin. Je rappelle que vous êtes ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci d'être venue en direct.